Vous êtes sur RTL.
RTL. Les réacteurs de la centrale nucléaire française de Cruas en Ardèche sont arrêtés pour au moins 3 jours. Un audit approfondi doit être mené par l'opérateur Électricité de France et l'agence de sûreté nucléaire après le tremblement de terre de lundi.
La curiosité est un vilain défaut.
Le seuil sismique vibratoire a déclenché une alarme sur un seul des 5 capteurs.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Conformément à la procédure de sécurité et de précaution, un arrêt des réacteurs surviendra dans les prochaines heures.
Bonjour Géraldine Vassner.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Vous êtes journaliste au magazine Le Point. Vous avez enquêté sur l'industrie nucléaire française. Et c'est justement après ce tremblement de terre, après l'arrêt des réacteurs de la centrale de Cruas, qu'on a eu envie de vous inviter pour savoir comment fonctionne en fait cette filière nucléaire. On va prendre le temps de rentrer dans les détails. Mais d'abord, l'actu, est-ce qu'ils ont redémarré ces réacteurs nucléaires là ?
Non, ils n'ont toujours pas redémarré parce que c'est la procédure. Hein. Vous venez de l'entendre. Un capteur s'est déclenché, ça a déclenché une alarme, ça veut dire qu'il y a eu des vibrations dans le sol et là on applique le principe de précaution, c'est-à-dire qu'on arrête tout et on mène un audit approfondi. Cet audit, alors le premier on est allé regarder est-ce qu'il y avait des fissures, des choses apparentes. Il n'y a rien. Maintenant, on va aussi tester mécaniquement les éléments de la centrale, vérifier que les boulons sont bien fermés, que les tuyaux n'ont pas bougé. Ça va prendre un petit peu de temps. Le résultat de tout ça sera envoyé à l'autorité de sûreté nucléaire qui, elle, pourra décider quand est-ce qu'on redémarre la centrale. Donc ça devrait se faire dans le courant de début décembre.
Mmh. Et à quel âge cette centrale nucléaire de Cruas ? Quand est-ce qu'elle a été conçue ? Et aussi avec quelles normes antisismiques ?
Alors, elle a été mise en service en 84-85, et comme toutes les centrales au moment de leur conception, effectivement, on a appliqué une norme antisismique, ce qu'on appelle un séisme majoré de sécurité. Alors pour l'établir, on regarde les données actuelles, ouais. Et puis quel a été le plus gros tremblement de terre sur 1000 ans. Donc pour Cruas, c'était celui de 1873, qui était je crois de 4,7. Ouais. On applique une majoration, donc de 0,5 dans la magnitude, donc elle est conçue pour résister à un séisme de 5,2.
Sauf mais que là attention, c'était 5,4.
Alors oui, mais non. Parce que 5,4, vous parlez de l'échelle de Richter, qui est la magnitude locale. Ouais. Là pour les centrales, on utilise une magnitude d'onde de surface qui mesure l'intensité du séisme. Donc là, en l'occurrence, c'est 4,5 ou 4,7, je crois. 4,5. Donc, on est parfaitement dans les règles. À savoir aussi que ce SMS, ce séisme, il est censé se produire juste sous la centrale. Or là, celui de Treille était à 23
km. Oui, c'était une vingtaine de kilomètres. Vous publiez « Faut-il sortir du nucléaire ?» Géraldine Vassner, c'est chez First. Et on peut se poser la question de la vétusté du parc nucléaire français. D'abord, ça représente combien de centrales et de réacteurs et elles ont quel âge en moyenne ces centrales ?
Alors, il y a 19 centrales nucléaires en activité en France, ça représente 58 réacteurs. C'est vrai, alors la question de la vétusté se pose notamment parce qu'on a toujours dans l'idée qu'une centrale, au bout de 40 ans, il faut qu'on l'arrête.
Ouais,
on a souvent entendu ça, oui.
Alors, on l'a souvent entendu, c'est faux. Cette idée de 40 ans, c'était au moment des premières mises en service, on a donné des licences d'utilisation aux États-Unis notamment, il fallait fixer une limite, mais qui est une limite symbolique. Aucune loi ne dit qu'il faut que ça s'arrête au bout de 40 ans. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a déjà une cinquantaine de centrales qui ont été autorisées
à prolonger
jusqu'à 60 ans. On étudie même à 80 ans. En fait, on les autorise tous les 10 ans. Il y a des visites décennales de sécurité tous les 10 ans.
Tous les 10 ans pour les centrales
nucléaires. Il y a des visites régulières et complètes.
Ouais. Mais tous les 10 ans,
pour prolonger l'autorisation d'exploitation, on fait ces visites décennales. Là, c'est vraiment un check-up complet.
Alors, on a encore plein de questions à vous poser, Géraldine Vassner. Par exemple, ce circuit de l'uranium. Moi, j'aimerais bien savoir où on va trouver le minerai, comment il est enrichi, comment ça devient de l'électricité pour nos réponses à venir, les curieux.
Maintenant, faut penser à notre carrière et c'est trouver un job, un bon job.
Et si on mendiait ? Je connais un endroit où on nous coupera les jambes.
Calmos, les gars. Je sais comment avoir un brillant avenir tout en conservant nos jambes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais bien sûr, l'énergie nucléaire.
Eh bien, c'est réglé.
La curiosité est un vilain défaut.
Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nous aurons un emploi électrisant
sur RTL.
Dans l'énergie nucléaire.
Quand Homer Simpson et Jerry centrale nucléaire dans les Simpsons, on se souvient très bien. Oui, juste que vous rappelez, ouais. Ils travaillent à la centrale de Springfield. Et nous, ce sont les centrales.
Arriva et EDF, ils n'ont pas osé les Jerry centrales.
Non, on
n'a
pas osé ça. Mais nous, on a une très bonne journaliste pour nous raconter les dessous du fonctionnement de ces centrales nucléaires. On entend beaucoup parler, évidemment, dans l'actu, sans vraiment savoir comment ça marche. Et on est avec Géraldine Vosner, vous êtes journaliste au Point. Et on va vraiment partir des questions les plus basiques. L'uranium, on sait que c'est la matière qui fabrique du nucléaire. On va reprendre le circuit depuis le départ. C'est la matière première. D'où vient cet uranium?
Alors, on a besoin, pour faire tourner nos centrales en France, d'à peu près 8500 tonnes chaque année d'uranium. Cet uranium, on n'en produit plus en France. Hein, on a fermé les dernières mines dans les années 2000. On l'importe, nous, essentiellement du Niger, mais les premiers pays producteurs, c'est le Kazakhstan, le Canada, l'Australie.
Ça ressemble à quoi, l'uranium?
Si on prend une mine du Niger, c'est quoi?
Alors, il y a plusieurs types de mines. Vous avez des mines à ciel ouvert ou des mines classiques. Hein, là, ça en fonctionne exactement comme quand on extrait d'autres types de matières, comme quand on extrait du charbon. Maintenant, l'essentiel, on l'extrait dans des gisements à faible teneur en uranium, mais qui sont dans des déserts. C'est-à-dire qu'on creuse des puits, on injecte des solutions chimiques pour récupérer l'uranium, on le sépare. Alors il y a un traitement chimique vraiment lourd et massif, hein, mais c'est moins impactant.
Il est dangereux pour les êtres humains qui le travaillent, cet uranium? Alors, à la base de la chaîne
l'uranium
nucléaire.
Il est présent sur la Terre depuis la formation, hein, de la croûte, ouais, terrestre.
Donc
il y en
respire.
A 3%, mais on en, ouais, respire, on vit dedans. Quand on vit en Bretagne, il y a de l'uranium sous nos pieds, donc c'est radioactif. Maintenant la durée de vie est tellement longue qu'il y a très peu de désintégration, si vous voulez, et ça n'est pas radiotoxique. La toxicité est faible de l'uranium naturel. Maintenant, pour qu'il devienne, pour qu'on puisse l'exploiter, ouais, un combustible, on ne peut pas l'utiliser comme ça.
Donc, alors,
si
on va
l'enrichir,
c'est ça ?
Au départ, on a une poudre, ouais, jaune, mm-hmm, qui s'appelle un yellow cake, qu'on emmène en France. Et là, il va falloir effectivement qu'on l'enrichisse. Pourquoi l'enrichir ? Parce que l'uranium, c'est composé à plus de 99% de l'isotope 238. L'uranium 238, mmh, c'est 92 protons et 146 neutrons.
Okay.
Mais ça, c'est pas fissile. Celui, il ne pourra pas fissionner. Celui qui fissionne, c'est l'isotope 235. Et là, il n'y en a que 0,3% à peu près dans l'uranium.
Donc, il faut aller le chercher dans
alors,
ce minerai.
Il est là, si vous voulez.
D'accord.
Donc, pour le transformer, pour enrichir l'uranium, mmh, on le transforme en gaz. Ce gaz-là, on le met dans une grosse centrifugeuse, si vous voulez. Mmh. Et quand ça tourne très vite comme ça, l'atome lourd d'uranium 238, il se colle sur le côté. Ouais. L'atome léger d'uranium 235, il est au centre et on peut le récupérer. Et on enrichit notre uranium à des doses d'isotopes fissiles d'à peu près 3%.
Et alors, ce qu'on met dans la centrale nucléaire, ça ressemble à quoi en fait?
Ce gaz enrichi, ouais, on le retransforme, on en fait des pastilles, ouais, des pastilles d'oxyde d'uranium, qu'on met dans nos crayons, qu'on va mettre dans la centrale. Alors, et c'est ça le combustible nucléaire.
C'est des gros crayons.
C'est de très fins crayons, tas de petits crayons très,
d'accord,
très fins. Il y en a à peu près, je crois que c'est 72 tonnes de métal par réacteur. Il va y rester 3-4 ans.
Qui c'est qui manipule ça, Géraldine Vosner, et comment dans les centrales nucléaires?
Des machines.
Des machines. Il n'y a pas d'humain autour
possible,
de ça.
C'est extrêmement, effectivement, extrêmement radioactif. Ouais. Avant, pendant, après.
Est-ce que ces crayons, vous nous avez dit une durée de vie limitée, c'est ça ?
3-4 ans dans le réacteur, ensuite il faut l'extraire. Ouais. Si vous voulez, quand on l'extrait, on a mis à peu près, quand on met 500 kilos de combustible dans le réacteur, ce qu'il en ressort, c'est 475 kilos d'uranium appauvri, c'est-à-dire il a perdu ses isotopes 235. Il y a 5 kilos de plutonium, qui est extrêmement radioactif, mais qu'en France, on va pouvoir recycler, réutiliser pour fabriquer un nouveau combustible qu'on appelle le MOX, qui est fait avec du plutonium, de l'uranium, ouais, appauvri. Donc ça, c'est recyclé. Et ensuite, ce qu'on appelle les déchets ultimes, des actinides mineures, des choses vraiment très, très radioactives. Mais ça, c'est quelques kilos.
Jusqu'à 15h.
Ah, centrale nucléaire !
La curiosité est un vilain défaut.
Tu sais quoi je faisais là, centrale? Chef de rayon.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Alors le patron vient vite me voir en courant avec un grand pyjama tout blanc. Il fait comme ça. Allez, va vite te laver les mains avant que les bras y tombent.
RTL.
Il
Extrait d'un sketch signé Pierre Auken. Je travaille à la centrale. C'est vrai que
bon, faut toujours se laver les mains, oui, c'est important. Oui, avant que les bras tombent.
Faut-il
les
sortir
têtes, les pieds aussi d'ailleurs. On
faut-il
sait jamais.
Sortir du nucléaire, c'est la question du jour dans la curiosité et le thème du livre de notre invité, la journaliste Géraldine Wessner. Vous répondez quoi à cette question?
Que la réponse c'est une vous a question pris, compliquée.
Voilà, vous avez, ça vous a pris quelques centaines de pages.
Non, l'idée du livre, c'est quand même que les gens aient des éléments pour répondre tout seul à cette question, oui. Parce que chacun a de très bons arguments. Ceux qui disent qu'il faut absolument sortir du nucléaire ont de bons arguments. C'est vrai que la vétusté des centrales va poser problème, commence à poser problème et va le poser à l'avenir. Est-ce que la sûreté est maintenue? Combien ça coûtera de les maintenir? Est-ce que la gestion des déchets à très long terme, même si c'est relativement encadré et géré, est-ce que c'est pas faire peser un risque trop lourd sur les générations futures? Ce sont de bons arguments. À l'inverse, ceux qui disent qu'il faut absolument le maintenir en ont de bons aussi.
C'est combien de la production d'électricité?
C'est 72% aujourd'hui, ouais, de la production électrique en France. Il ne faut pas surestimer ça, hein, parce qu'on ne parle que d'électricité. La production d'énergie, la consommation d'énergie en France, c'est quand même majoritairement encore fossile. Mmh. Et c'est pour ça quelle priorité on met, parce qu'aujourd'hui, les déchets nucléaires, on les vitrifie, on va les enfouir sous terre. Les déchets des centrales à charbon, ce sont ceux qui se libèrent dans l'atmosphère. Donc, quelle priorité gérer? Aujourd'hui, le nucléaire, c'est une énergie bas carbone. C'est utile pour contrer le réchauffement climatique.
Est-ce que c'est une énergie qui pollue, Géraldine Wessner, le nucléaire? Parce qu'on voit souvent, là, on a posté des photos sur nos réseaux sociaux, on voit toujours ces grosses cheminées avec cette grosse fumée blanche. C'est quoi cette fumée blanche? Il y a quoi dedans?
C'est de l'eau. C'est de la vapeur d'eau. D'ailleurs, ça montre à quel point les Français ont une idée fausse du nucléaire. Il y en a plus de 70% des Français pensent que le nucléaire contribue au réchauffement climatique. C'est parfaitement faux.
Il ne
c'est
pollue une énergie... pas.
Non, il ne pollue. Il ne rejette pas de gaz à effet de serre. Voilà. Voilà. Donc la fumée blanche qu'on voit, c'est simplement parce que une centrale nucléaire, elle fonctionne exactement comme une centrale à charbon. On fait bouillir de l'eau pour générer de la vapeur qui va actionner des turbines qui créent de l'électricité. Et la vapeur d'eau qu'on voit s'échapper dans l'air, bah c'est l'eau des circuits de refroidissement. Elle ne touche jamais le cœur du réacteur, donc elle est parfaitement, elle est pas toxique.
Voilà,
c'est de l'eau.
Alors il y a une autre question qui se pose, c'est la question d'une attaque terroriste. Qu'est-ce qui se passe si un avion type 11 septembre aux États-Unis se crache dans une centrale nucléaire?
Alors c'est un risque qu'aujourd'hui les responsables de la sécurité de nos centrales et l'armée ne considère pas comme crédible. Si vous voulez, la sécurité des centrales en France, elle est assurée par des moyens physiques, donc des murs de plusieurs mètres d'épaisseur, les toits des piscines qui ont des bardages métalliques. Sous ces bardages métalliques, vous avez 7 à 8 mètres d'eau avant de trouver les crayons de combustible. On ne considère pas que le risque d'une chute d'avion gros porteur soit particulièrement crédible, et ces bardages sont faits pour empêcher la chute d'éléments d'un avion.
Donc si je vous comprends bien, ça veut dire qu'elles ne sont pas prévues pour résister à le choc d'un avion.
Au contraire.
Mais en fait, elles sont si physiquement prévues dans la mesure où... alors, moi, c'est ce que m'ont expliqué les responsables de la sécurité de ces centrales. Un avion ne tombe jamais en piqué.
Ouais.
Si vous voulez, il va tomber. Je ne sais pas si vous me voyez à la radio, c'est
si,
pas.
Si, si, ciel.fr fait des jolis gestes. Hein.
On va vous traduire pour ceux qui nous écoutent.
C'est physiquement peu crédible qu'un gros moteur tombe contre un mur de protection ou ce sont des éléments qui pourraient tomber et qui seraient arrêtés par ces bardages métalliques. Maintenant, il y a une vraie question de sécurité qui se pose. C'est la même question qui se pose dans l'armée, dans la police. C'est que le risque interne, il est réel. Il existe. Alors, il y a des gendarmes spéciaux, des groupements de gendarmerie spéciaux qui sont attachés à chacune des centrales et à chacun des sites nucléaires en France. Les personnels qui travaillent dans les centrales sont criblés, c'est-à-dire passés à 16 fichiers tous les ans. C'est renouvelé tous les ans, mais le risque zéro n'existe pas et c'est une vraie question.
Oui, on espère que le criblage et le fichage fonctionnent mieux qu'à la préfecture de police de Paris. On a encore plein de questions à vous poser.
La centrale de Crémalville est restée en alerte rouge pendant plus de 2 heures mercredi dernier.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
S'il tombe en panne, ce système automatique, eh bien nous avons également le système manuel.
On est bien entre curieux.
C'est ce bouton, si j'appuie, ça retentit dans toute la centrale.
Attention.
C'est juste un léger problème. Cela dit, si le système manuel ne marche pas, nous avons également la clochette pour avertir nos camarades, qui est tout aussi efficace.
Sur RTL.
Quand les accoudus revisitent la chaîne des incidents nucléaires, des contrôles, bon, heureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ce que nous explique la journaliste Géraldine Wössner. On va tout dire dans l'ordre. On va terminer avec l'histoire de l'EPR de Flamanville. C'est sans doute l'un des plus grands fiascos de l'histoire de l'industrie et certainement de l'histoire de l'industrie nucléaire française. Je disais tout à l'heure, ça devait coûter 3,3 milliards et entrer en fonction en 2012. Alors, on en est où, là, maintenant?
On en est à 12,4 milliards, hein, à la dernière censement. Pour une entrée en service, c'est pas garanti, hein, peut-être 2022. Soyons prudents, attendons de voir si un jour ce réacteur diverge.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce réacteur de Flamanville?
Il y a eu une série de dysfonctionnements, des malfaçons sur les piliers, des problèmes de cuves. La réalité, c'est que depuis 20 ans, on n'avait pas construit de centrales nucléaires en France.
On n'avait plus le savoir-faire.
Une perte totale de savoir-faire. C'est important de le souligner parce qu'en Chine, deux EPR ont été construits, sont en état de marche. Ça a pris à peu près 5 ans et demi pour les faire. Il n'y a eu aucun problème. Ils fonctionnent très bien parce qu'ils construisent depuis maintenant 20 ans. Donc, cette compétence s'est perdue, mais alors dans des proportions quand même impressionnantes. Hein. Les premiers plans étaient tellement mal conçus qu'on avait prévu 17 formats de portes différents. C'est une aberration sur le plan industriel. Pour ce qui est des coûts, effectivement, ils ont dérapé. Maintenant, moi, je relativiserais, ça représente à peu près 2 ans de subvention aux énergies renouvelables, 12,4 milliards pour une centrale qui va beaucoup produire, qui est prévue de durer 60 ans. Ça peut se discuter.
Merci beaucoup.